Bonjour à tous. L'épisode d'aujourd'hui démarre un peu différemment parce que je veux vous annoncer qu'avec la fin du confinement qui a lieu en France au moment où j'enregistre, le rythme de l'émission va un peu changer. Après avoir fait deux épisodes par semaine les mercredis et les samedis, on va passer sur un rythme hebdo, avec un épisode tous les samedis seulement. À part ce changement de programmation, on reste sur la même formule. D'ailleurs, petit exclu pour vous, sur les mois de mai et juin, on va pouvoir parler un peu plus de psychologie, car Olivier Durie, de l'épisode 11, m'a mis en relation avec de super invités. Suivez l'émission sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières nouvelles. Je voulais aussi profiter de ce moment pour vous remercier pour tout votre soutien par vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et vos partages. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez noter l'émission sur Apple Podcast, car ça aide le référencement de l'émission pour que d'autres puissent la découvrir. Sinon, un bon vieux partage à un ami est toujours le bienvenu. Allez, place à l'épisode. Vous écoutez Le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Manzanini, ultracycliste, double finisher de la Race Across America en 2013 et 2015. Et il est le recordman français. Il a été chef d'équipe sur cette même course en 2019. Il est le double recordman du monde de la traversée de France. Il est également le directeur de course de la Race Across France, qui est l'équivalent français donc de la course américaine. Il est présentateur du podcast Ultra Talk et speaker en entreprise. Bonjour Arnaud, sacré CV.
Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est bien résumé.
Alors, est-ce que tu pourrais, là j'ai fait un peu tes bullet points de ton parcours, mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs et ensuite on se lance?
Oui, écoute, parcours de sportif, hein, j'ai découvert le vélo et j'ai eu l'envie d'en faire depuis tout petit lors d'un voyage familial où je rendais visite à ma famille parce que je suis originaire de l'Italie du Nord. Et donc, mon cousin, qui à l'époque gagnait toutes les courses auxquelles il participait, à la fin de la course, m'a tendu son vélo et j'ai tenu ce vélo dans mes mains. Et ça a été un peu un coup de cœur. Et depuis ce jour-là, et j'étais très petit, hein, j'ai toujours les images en tête, j'avais 4 ans. J'ai toujours les sons, les images, les odeurs, la musique en tête de ces moments-là. J'ai toujours eu envie de faire du vélo, mais je n'ai pris ma première licence qu'à 18 ans. Donc, entre-temps, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai fait un sport-études de foot, j'ai fait du tennis et j'ai pris ma première licence à 18 ans. J'ai toujours été très tourné coursier, donc vraiment pas le vélo à ce moment-là, pas le vélo voyage, mais le vélo compétition, vraiment. Donc licence, course tous les week-ends de mars à octobre, stage, préparation, donc très tourné performance.
Ouais.
Donc avec des bons résultats, hein, j'ai été élite, je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais pas les capacités physiologiques pour rejoindre les rangs professionnels, très clairement. D'accord. À un moment donné, tu te rends bien compte quand tu es dans les pelotons avec les meilleurs amateurs français qu'il y a un écart et que, là c'est très clairement physiologique, quoi. T'as beau t'entraîner tous les jours, à un moment donné, tu te rends compte que il y a un fossé que naturellement tu peux pas combler.
Je confirme. Je
suis rentré dans la vie active. Ça coïncidait avec le moment où je rentrais dans la vie active. Et puis je suis revenu sur le cyclisme 8 ans plus tard, en rencontrant un copain au bord de la route. On a pris une première licence. Les premières victoires sont arrivées et 3 ans après, donc être revenu dans les rangs du cyclisme, j'avais gagné pas mal de courses. On tournait un peu tous ensemble tous les week-ends. Bon, très clairement, ça ne m'intéressait plus. Et je suis tombé par hasard sur cette épreuve américaine, la Race Across America, qui consistait à traverser les États-Unis d'ouest en est en une seule étape, avec assistance. Et je me suis dit, waouh, mais cette épreuve est géniale. Un jour, j'aimerais la faire. Et puis, j'ai creusé un peu en regardant sur le net. Donc là, on était en 2010, hein, ça fait 10 ans.
Ouais.
Et j'ai vu qu'il y avait déjà quelques Français qui l'avaient fait. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Ces gens-là, personne ne les connaît. Et ils ont réalisé un exploit, quoi. J'ai pris contact avec ces participants qui m'ont partagé leur expérience. Et ben, je leur ai dit, dans 3 ans, maximum, je serai au départ de cette épreuve et je la ferai. Donc, autant te dire que certains m'ont regardé un peu en me disant, bah, ouais, c'est ça. C'est, déjà, fais de l'ultra-distance et puis après, on verra. Et en fait, il se trouve que la particularité, c'est que j'ai fait de l'ultra-distance et j'ai commencé par le top du top tout de suite, par la référence. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un 200, un 500, un 1000 km. Et puis ensuite, une épreuve d'ultra, j'ai tout de suite commencé par le top du top en épreuve d'ultra-distance avec assistance, qui est la Race Across America, qui fait 5000 km et que tu dois terminer en moins de 12 jours. Mais je te parle de ça maintenant, mais à l'époque où je me suis lancé le défi, je ne savais pas qu'est-ce qu'était vraiment l'ultra-distance. Moi, je voulais juste faire cette course, en fait, traverser les États-Unis.
Ouais, ça te fait, donc, le concept te fascinait, quoi, c'est ça?
Exactement. Et donc, je me suis préparé comme j'imaginais qu'on devait se préparer, puisque la première fois où je l'ai fait, c'était en équipe de deux. Et puis, quand on est arrivé, donc on a réuni un budget, ça a été compliqué, on n'avait pas d'expérience, on était des coursiers, mais pas d'expérience dans l'ultra. Ouais. Et quand on est arrivé aux États-Unis, au moment du meeting, la veille du départ, là, très clairement, on a pris, enfin, en tout cas, moi, j'ai pris une immense claque dans la gueule, où je me suis dit, waouh, quand j'ai vu les moyens financiers qui étaient dégagés pour des équipes anglo-saxonnes, comparativement à nous, et là je me suis dit, waouh, franchement, on est loin d'imaginer en France ce qui se passe aux États-Unis. On a découvert cet univers-là, et c'est à ce moment-là où ça a commencé à mûrir dans ma tête cette histoire de Race Across France. Ouais. Donc on a fait l'épreuve. Autant dire qu'on a énormément souffert puisqu'on n'avait aucune stratégie d'alimentation, aucune stratégie d'hydratation et on était face au mur à chacun de nos relais tous les deux. Donc on a fini dans un état de fatigue très avancé, un état de maigreur très avancé au bout de 8 jours. Moi j'avais perdu quasiment 1 kilo par jour, ce qui était énorme.
C'est beaucoup, ouais.
Ouais, donc on a mis du temps à récupérer et 4 mois après, une fois que j'ai eu la redescente en émotion qui est aussi très compliquée dans l'ultra-distance et il faut vraiment le gérer, parce que ça peut être déprimant. J'ai recontacté tous mes assistants et je leur ai dit, voilà, allez, on y retourne. Est-ce que ça vous dit d'aller au bout de l'aventure, de la faire en solo? Ils m'ont tous dit oui, quasiment tous m'ont dit oui. Et donc, on a relancé cette aventure de Race Across America en solo, où là, je me suis entraîné, je savais où j'allais. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à revoir, mais je pense que tu vas me reposer des questions sur ça, j'ai commencé à reprendre de A à Z toute mon alimentation à ce moment-là. Et de commencer une transition au niveau de mon alimentation. Ouais. Et puis, je suis retourné sur cette épreuve en 2015 que j'ai terminée. Qui a été, à ce moment-là, je pensais que c'était l'aboutissement pour moi du cyclisme. C'était un petit peu l'apothéose quelque part, entre guillemets, de ma carrière. Ouais. Et en fait, c'était le début d'une autre vie, très clairement. Puisque pendant 11 jours... beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question. Et j'ai franchi la ligne d'arrivée et j'étais différent, très clairement. J'étais différent et derrière, après, ça a changé au fur et à mesure des mois, des années. Depuis 5 ans maintenant, complètement la suite, la direction que je voulais donner à ma vie, très clairement. Et puis derrière, effectivement, création de cette race, donc importation du concept en France avec la Race Across France, pardon. Je suis devenu végétarien et puis ensuite j'ai basculé vegan dans mon alimentation. Enfin voilà, toutes ces choses-là, création du podcast Ultra Talk parce que c'est une vraie envie de partage. Donc je pense que tu vas m'interroger sur ça, donc je vais m'arrêter là dans la présentation, sinon je vais parler pendant 2 heures.
Ouais, alors déjà, j'ai quelques questions, juste pour parler un petit peu de cette course. Tu vois, tu décris des trucs que j'ai déjà entendu, donc juste pour situer, et pour ceux qui découvrent un petit peu le podcast aujourd'hui, donc moi je suis passionné d'ultra-distance aussi, mais plutôt sur la course à pied. Donc le cyclisme, bon, je connais pas, c'est un domaine qui est assez flou pour moi. Et pourtant, quand je t'entends raconter déjà cette histoire, j'entends des choses qui sont très similaires. Donc là, par exemple, t'es en train de parler de ta première expérience sur cette course aux États-Unis et tout de suite, tu te rends compte que c'est un autre monde. Donc, tu vois, le fait de ces différentes cultures autour des sports ultra, par exemple, en Amérique du Nord versus la France. C'est-à-dire que je vois dans la course à pied, quand on se pointe sur les ultra-trails, bon, en général, c'est toi et peut-être ta compagne, si elle a bien voulu te suivre cette fois-ci. Et puis, bah, voilà, vous êtes deux, quoi. Et peut-être d'autres copains qui la faisaient aussi, mais c'est pas, t'arrives pas avec un équipage, alors que dans les courses en Amérique du Nord, les gens arrivent en équipe, même quand c'est des amateurs purs et durs. Hein. Donc déjà, ouais, deux cultures radicalement différentes.
Complètement, c'est une vraie claque, franchement. Je pense qu'il y a une différence de culture entre les anglo-saxons et nous, français. Très clairement, en 2013, quand j'ai vu, moi j'ai été témoin de ça et j'ai vu ce qui se passait, et j'avais aussi eu beaucoup de difficultés à boucler mon budget et j'avais vécu beaucoup, beaucoup de frustration dans les entreprises que je démarchais de par leur réaction. Mmh. Et très clairement, là déjà, en 2013, je m'étais dit, en fait, en France, on n'est pas du tout un pays sportif. Quand tu vois ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, on ne valorise pas l'exploit sportif. On ne met pas du tout ça en avant, en fait. Voilà. Les entreprises, c'est trop compliqué. En France, c'est très, très compliqué de monter des projets, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est un vrai projet où ils sont capables de monopoliser du temps et de consacrer du temps via des associations ou des entreprises pour ça. Il y a des vraies valeurs de partage autour d'un projet. Mais ça fait vraiment partie de leur culture. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de la culture, notamment américaine, où ils vivent à travers des communautés. Ils vivent à travers des communautés. Le fait de donner du temps ou de donner de l'argent, ça fait partie de leur culture. Parce qu'aux États-Unis, notamment, la police et les pompiers existent uniquement sur de la donation des particuliers. Donc, ils n'auront pas de service de sécurité, de service de secours si ils ne faisaient pas des dons. Donc ils ont cette fibre-là de si le projet me plaît, je donne, je participe.
Je vois ce que tu veux dire.
Alors que nous, en France, on est mais à 100 000 lieues de ça. Moi, j'ai des chefs d'entreprise, quand je les ai démarchés pour présenter ce projet-là, où il y avait cette notion de performance, parce qu'il faut quand même s'enquiller des centaines de kilomètres par jour pour réaliser cet exploit.
Ouais.
Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont répondu, mais en fait, tu veux que je te paye tes vacances. Ouais. Donc là, je me suis dit, mais en fait, les gens... Alors, soit je présentais mal le projet, soit les gens ne me comprenaient pas. Je me suis vite rendu compte, au bout de plusieurs réponses, que c'était la culture qui était différente. C'était la culture qui était différente. Donc oui, aux États-Unis, ils ont cette culture-là.
Je pense qu'il y a peut-être une... Enfin, en tout cas, ça fait écho avec des conversations que j'ai déjà eues avec des gens ici et là-bas. Enfin, bon, moi, c'est plutôt le Canada, mais j'ai quand même des copains américains. Mais ça fait écho du coup à ce que j'avais un peu vu. Et je pense que déjà, on va le voir juste dans la culture du sport au sens le plus primaire du truc, c'est-à-dire que les gens qui vont faire un peu de sport en salle, quand tu vas dans une grande ville américaine, déjà, tu as des salles, il y en a partout. Il y en a beaucoup de petites aussi, il n'y a pas que des grosses, grosses salles. Beaucoup de toutes petites salles, très, très, on va dire, un peu plus intimes. Je pense qu'il y a une plus grosse culture peut-être du sport tout court. Et ensuite, effectivement, comme tu dis, il y a une grosse culture de la célébration de l'exploit sportif, juste de l'effort. De l'effort, en fait, hein, c'est pas forcément un exploit.
De l'effort, et puis de l'accompagnement aussi de pourquoi la personne veut le faire. Parce qu'on a chacun, on fait ce genre de choses, c'est assez personnel, mais les gens comprennent et accompagnent, ils ne vont pas dans la critique de suite ou dans l'incompréhension. Et pour reprendre ta question par rapport à l'ultra, que ce soit trail ou cyclisme, aussi de par le podcast que j'anime, je peux te dire que c'est exact, on vit la même chose. C'est juste le support qui est différent, mais les émotions sont les mêmes, exactement les mêmes.
C'est ça, nous, côté course à pied, on aime bien se moquer un petit peu des cyclistes en disant eux, c'est pratique, hein, quand ils sont fatigués, ils arrêtent de pédaler, mais ils continuent d'avancer. Hein.
Oui, c'est la vérité.
Oui, on va moins loin.
Les émotions sont exactement les mêmes. Et moi, je fais le constat qu'il y a beaucoup aussi de personnes, quand elles vantent les émotions qu'elles ont vécues sur une épreuve et qu'elles peuvent, elles peuvent vivre ce type d'émotion que sur cette épreuve. Je l'ai pensé à un moment donné à tort. Et après, m'être ouvert et avoir regardé ce qui se passait aussi ailleurs, tu peux vivre ce genre d'émotion sur n'importe quel type d'épreuve d'ultra. Après, c'est juste que certaines personnes préfèrent telle communauté ou telle épreuve, mais les émotions que tu vis, quelle que soit la course, sont les mêmes. Ça, c'est clair.
Alors, une petite question technique, parce que dans la course à pied, la définition de ultra est relativement claire, elle change juste en fonction de qui la donne, mais on va dire qu'il y a des chiffres assez carrés, c'est-à-dire que c'est soit c'est plus d'un marathon, soit c'est plus de 80 km, je crois, d'après certaines définitions. Enfin, tu vois, il y a un chiffre bien clair, à partir duquel on appelle ça ultra. Dans le cadre du cyclisme, est-ce qu'il y a une distance particulière à partir de laquelle on dit que c'est de l'ultra?
Non, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a vu la poussée de la longue distance, de l'ultra distance arriver en France, là de plus en plus présente. Il n'y a pas vraiment de distinction. Enfin, il n'y a rien aujourd'hui qui régit notre discipline, très
D'accord.
clairement. Moi, j'estime que c'est à peu près autour de 800 km. Tu vois, je pense
D'accord.
un 500 km entre 200 et 500, 800 km, ça va être de la longue distance.
OK.
Ensuite, dès que tu bascules sur plus de 800, plus de 1000, là, on est quand même sur 3-4 jours d'effort minimum. On est quand même dans l'ultra. Ouais.
Ouais, d'accord.
Certains expliquent 500 km, mais franchement, quand tu vois aujourd'hui le nombre de personnes qui sont capables de faire 300 bornes, 350 bornes sur un samedi ou un dimanche, on a de plus en plus. Je pense que tu tombes vraiment dans l'ultra. Pour moi, l'ultra, c'est vraiment. À titre personnel, je dirais que c'est même au-delà de 1200, 1500.
D'accord. Ouais, donc ouais, c'est un peu les définitions varient. Il y a pas un, je sais pas, genre
Non.
l'organisme, un organisme qui dit ah, c'est
Non,
ça.
parce que dans
Ok.
l'ultra, dans le long, les fédérations ne reconnaissent pas notre discipline. Elles ne connaissent pas du tout notre pratique. Donc, il y a toutes les épreuves qu'on lit en France et même à l'étranger, elles ne sont affiliées à aucune fédération. C'est que
Ok.
des associations en individuel. Qui le font de chacun de son côté. Donc il n'y a rien. Il y a une association américaine qui avait régi et qui avait expliqué que c'était 500 miles ou 24 heures minimum. Mais je trouve que 24 heures, ça reste de la longue distance. Ce n'est pas de l'ultra. Parce que tu peux faire 24 heures sur un circuit automobile. Tu vois, comme
D'accord.
les 24 heures du Mans vélo, bah, pour moi, ce n'est pas de l'ultra.
D'accord.
Ça reste impressionnant parce que tu pédales pendant 24 heures. Et encore, tu as des arrêts, donc, puis tu as des relais pour des équipes, mais ce n'est pas de l'ultra, c'est du vélo longue distance, allez encore, mais ce n'est pas de l'ultra.
Ok. Ouais, bah et du coup, c'est quand même un sport qui, enfin, bah encore une fois, je suis le cyclisme de très loin. C'est un sport qui est relativement récent, en tout
Oui,
cas,
totalement.
qui se définit en tant que sport à part entière depuis peu, finalement.
Exactement, exactement.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu, je pense, de toute façon, de ton aventure en France. Mais il y a une des choses, je pense, qu'on va placer un petit peu avant ça, c'est que, puisqu'ici, on aime bien parler de santé, et que ça a été un des gros sujets pour toi lorsque tu es allé faire ta deuxième tentative, que tu as vraiment voulu reprendre ton alimentation en main. Moi, je voulais savoir ce que tu avais fait entre 2013 et 2015, quand tu dis, voilà, je me suis pris en main, t'as changé quelque chose, justement pour pouvoir faire cet effort solo. Donc, ça ressemblait un petit peu à quoi?
Bah en fait, dans le cadre de ma préparation pour 2015, qui a commencé en 2014, j'ai commencé à faire des épreuves d'ultra. Et en fait, bah ça a été des échecs. Des échecs, alors que les deux échecs dont je vais te parler, j'étais en tête de la course. Bah j'ai fait deux hyperglycémies
D'accord.
à chaque fois.
Une
Mais j'avais
hyperglycémie.
jamais fait d'hyperglycémie. Et j'avais jamais fait. Et ça a vraiment tout remis en question. La première hyperglycémie que j'ai fait, bon, je m'étais dit là, j'ai vraiment déconné. C'était sur un 24 heures et j'étais en tête de l'épreuve. Je roulais à une cadence infernale. J'avais des jambes incroyables et de peur de manquer, j'ai pris trop de sucre. Et là, j'avais jamais fait d'hyperglycémie. J'ai vu ce que c'était et j'ai perdu la course. Je suis resté 6 heures allongé parce que le temps que mon corps
Le
évacue le
trop-plein.
sucre, voilà, évacue le trop-plein. Donc là, bon, j'avais pris une bonne claque. Mais la semaine d'après, pile poil, hein, une semaine après, j'avais rectifié le tir en m'alimentant un peu moins, mais pas différemment, hein,
Ouais.
mais juste un peu moins. Et j'avais fait un Bordeaux-Paris où j'avais remporté ma catégorie. Donc on avait fait 620 bornes, je crois, en 19 heures. Donc j'avais remporté ma catégorie, j'avais fait quatrième au scratch. Et donc, bon, du fait que je rectifie un petit peu le tir, c'est un petit peu passé à la trappe. Mais un mois et demi plus tard, j'étais sur la Race Cross Italie. Donc là, on traversait l'Italie, on faisait un aller-retour en fait. On faisait Adriatique, Méditerranée, Adriatique.
Ouais.
Et là, pareil, première traversée, donc j'arrive en dessous de Rome en tête. J'étais en tête au bout de 12 ou 13 heures d'effort.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à sentir les premiers symptômes qui commençaient à être inquiet, puisque je ne pouvais plus m'alimenter en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais ni boire ni manger. La simple vue d'une barre de céréales me donnait des nausées. Et j'ai refait à nouveau une hyperglycémie. Et là, par contre, j'ai dû abandonner. Vomissements, nausées. Et là, ça m'a conduit à l'abandon. Et là, on était un an, pardon, avant ma Race Across America. Et très clairement, en rentrant dans la voiture, j'ai dit à mon assistant, bon, bah, j'arrête en fait. Si je suis pas capable de faire 800 bornes, très clairement, j'arriverai pas à faire 5000, quoi. Et là, il me dit, bon, écoute, Arnaud, j'ai un truc à te dire. En fait, dans la voiture d'assistance, on n'a pas pu respecter précisément les consignes que tu nous avais données au niveau de ton alimentation. Parce que moi, au niveau de l'alimentation, je suis très précis. C'est-à-dire que tout est noté heure par heure, les calories, quel bidon, quel type d'alimentation, solide, liquide, tel type de barre, parce que dedans, il y a ça ou ça. Très précis. Et les assistants pris dans le cours de l'épreuve n'ont pas respecté ce programme. Et là, en fait, j'ai mis en pause pendant un mois. C'est-à-dire que je ne suis pas entraîné pendant un mois en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'y vais, par contre, je reprends tout de A à Z. Vraiment, qu'est-ce que je mange? Pourquoi je le mange? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et c'est comme ça que j'ai basculé sur le fait d'être végétarien, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout besoin de protéines animales et que tout le marketing qui était fait autour des poudres, et notamment dans les salles de sport où si tu veux prendre du muscle, bah, il faut bouffer de la protéine animale. Donc j'ai arrêté complètement ça dans un premier temps et je me suis senti beaucoup, beaucoup mieux et ça ne m'a pas empêché de faire une très belle Race Across America en solo. Et puis ensuite, bah, j'ai été poussé plus loin. Avec les projets où cette année je devais participer à la Transcontinental Race, donc la traversée de l'Europe hein, en solo et en autonomie cette fois, où j'ai creusé encore l'alimentation et je suis devenu vegan. Et je me sens maintenant très très bien dans mon corps et je sais quand je mange quelque chose ce que ça m'apporte précisément, ce que je ne savais pas avant. Et je pense que les gens s'intéresseraient beaucoup plus à ce qu'ils avaient dans l'assiette, je pense que ça changerait énormément de choses.
Mais justement, je veux m'en rendre compte un petit peu de ce que ça a fait comme changement pour toi. Donc, est-ce que tu peux décrire, par exemple, donc tu dis que tu as commencé avec justement ces poudres protéinées, c'est un truc que tu as un peu banni, ou en tout cas que tu as décidé de ne pas consommer, mais qu'est-ce que tu mangeais avant?
Ouais, bah, je vais te faire une journée classique de l'avant. À l'avant,
Voilà.
c'était un bol de céréales. Voilà, un bol de céréales commerciales, on va dire ça comme ça. Céréales classiques, deux tranches de pain de mie avec du beurre, et puis un café ou un jus d'orange. Bon, déjà, j'étais pas dans la malbouffe. Hein. J'ai jamais été non plus dans la malbouffe. Mais c'était ça. Ensuite, le midi, ben, ça pouvait être un steak, du poulet ou du poisson,
Une forme de
et des
protéine, quoi.
féculents. Et des féculents, voilà. Il pouvait y avoir un goûter ou ce genre de choses. Là, ça pouvait être, je sais pas, un cheesecake ou un goûter où on se faisait plaisir. Et le soir, bah, ça pouvait être à nouveau des féculents ou ce genre de choses. Il n'y avait pas trop de réflexion, en gros. C'était un petit peu ce qui se présentait. Et après, bah, aujourd'hui, typiquement, je vais te dire aujourd'hui, une journée type, c'est au lever un smoothie. Ça, c'est vraiment une routine. Donc j'ai un smoothie à base surtout de feuilles vertes, puisque les feuilles vertes apportent beaucoup de protéines. Donc les feuilles vertes, c'est du chou calé, c'est des épinards, c'est de la blette, par exemple, que tu mélanges dans ton smoothie avec des fruits. Avec des fruits. Donc ça, c'est mon petit-déj maintenant. Il y a plus de bol de céréales, qui en fait, c'est du sucre, hein, très clairement. Donc c'est un smoothie direct. Voilà, au lever. Si derrière j'ai une grosse journée d'entraînement ou j'ai fait une grosse journée d'entraînement la veille et je me sens fatigué, je peux rajouter deux tartines de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète, qui sont très riches en protéines. Mmh. Voilà. Et si vraiment je vais partir dans l'heure ou les 2 heures qui suivent à un entraînement pour une journée, je peux rajouter un petit bol de quinoa ou ce genre de féculent là. Voilà.
D'accord.
Et puis ensuite le midi, c'est pareil, ça va être une salade ou alors une petite soupe de pois chiches par exemple. Et puis après, ça peut être de la patate douce que je ne consommais jamais avant. Ça peut être de la patate douce, ça peut être du quinoa, du riz complet. Mais en tout cas, tout est à base d'alimentation complète maintenant. Les pâtes, ouais, c'est du complet, le riz, c'est du complet. Après, je n'ai plus trop les noms en tête, mais ça va vraiment être… les repas sont maintenant choisis. Mmh. Voilà. Choisis. Le goûter, ça peut être une petite poignée d'amandes ou de noisettes. Mmh. Et le repas le soir, c'est pareil, ça va être un bouillon ou une soupe. Généralement, ce que je fais le soir, c'est je fais revenir dans un petit bouillon soit une butternut, soit une patate douce. Et après, je mixe tout ça avec de la crème de coco ou de la crème de soja, quelques graines de sésame. Mmh. Et je mange ça sous forme de soupe. L'avantage, c'est que ça met quand même ton organisme au repos. Voilà. Si j'avais vraiment deux routines à sortir de la journée, ça serait voilà, le matin et le soir, ça reste très liquide pour que l'organisme soit au plus possible au repos.
Ok, il y a quelques trucs intéressants là, que j'entends. Je te fais la liste et ensuite on commande dessus. Alors déjà, j'entends un truc entre ton avant et après. J'ai l'impression que tu te fais beaucoup plus à manger, c'est ça ? Déjà, que tu cuisines plus.
Ah, exactement. Je cuisine maintenant. Maintenant, je cuisine.
Ouais. Ouais.
Et, très clairement.
Et du coup, tu es sur des aliments qui sont aussi plus naturels d'entrée.
Bah, complètement. Puis j'ai changé aussi mon mode d'achat. C'est-à-dire que si je peux aller vers le producteur, je vais vers le producteur ou je vais dans des magasins où je connais la qualité des produits. Mmh. Voilà, je ne vais pas en grande surface et je prends l'étal. Non, j'ai aussi la démarche, en fait, c'est une manière de vivre après. Je pense que c'est un état d'esprit, hein, très clairement. Il y a vraiment un avant-après et c'est vraiment un état d'esprit.
Oui, je veux bien m'alimenter. Tu n'as pas tout fait du premier coup. Enfin, ça a dû être un processus quand même.
Ah non, bah non. Ouais. Ah ben non, non, non. Je ne suis pas levé le lundi matin en me disant il faut repérer aussi par rapport où tu habites, qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi. Et puis après, tu trouves tes habitudes. Tu trouves tes habitudes, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas.
Bien sûr.
Et voilà. Mais oui, je me suis fait. Maintenant, je fais à cuisiner pour la famille.
Ouais, et dans ton alimentation d'avant, tu disais que tu. Enfin, ou alors j'ai peut-être mal compris, mais tu disais que tu consommais des boissons protéinées ou des trucs comme ça aussi
Bien sûr, ça m'est arrivé. Ouais. Je buvais du coca, alors c'est pas du protéiné, mais typiquement les sodas. Je buvais des sodas, ça m'est arrivé de goûter à certaines boissons dites euphorisantes. Oui, je suis tombé dans ce piège-là.
Mais ça, tu l'as proscrit après.
Et après, mais après, tu as toujours la tentation parce que tu as le piège du cerveau après. Mmh. Tu vois, tu as une forme de dépendance quelque part où c'est le plaisir en fait. Voilà, c'est le fait de se faire plaisir. Ouais. Mais tu fais pas plaisir à ton corps, tu fais juste plaisir à ton cerveau, à ta dépendance en fait. Voilà. Mais ça, faut savoir le combattre, mais bien évidemment. Hein, des fois, je vois une canette, je me dis, voilà, un bon coca frais avec des glaçons, ça ferait du bien. Oui, ça ferait. C'est du plaisir, mais ça ne fait pas forcément du bien à ta glycémie, par exemple.
Ouais. Et alors, c'est ça que je me posais comme question, d'ailleurs, parce que sur ce parcours de transformation, donc, tu vois, tu racontais que tu as fait donc, deux hyperglycémies.
Oui.
Alors, pour moi, il y a plusieurs trucs. Enfin, si quelqu'un me dit... dans un effort d'endurance, qu'il a fait une hyperglycémie, j'en viens à deux conclusions, enfin deux scénarios probables. C'est donc effectivement suralimentation, ou plutôt suralimentation de sucre simple, c'est-à-dire très, très digeste. Donc il a pu facilement les assimiler bien au-dessus de sa capacité à les traiter dans le corps, donc hyperglycémie. Ou sinon, effectivement, peut-être une surcharge en fait de la capacité de son corps à produire de la glycémie. Parce que ce soit des sucres simples ou pas, juste une surcharge de son corps à pouvoir en fait stocker cette énergie ou l'utiliser. Et donc, de fait, augmentation du niveau de sucre dans le sang. Mais tu sais que
Ouais.
c'est une hyperglycémie parce que tu as découvert la sensation. C'est vrai que, enfin, j'imagine que tu ne te balades pas avec un capteur de glucose sur toi, comme un diabétique.
Non, mais je me suis posé beaucoup de questions. Hein. C'est-à-dire qu'après, j'ai été faire un test pour voir si je n'étais pas diabétique. Hein. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit, bon, là, j'ai vraiment un problème avec le sucre, en fait. Parce que ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Et en fait, non, 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 c'est juste que bah, de peur, de, le fait. Après, je me suis un petit peu aussi laissé à chaque fois griser par le fait d'être en tête de l'épreuve. J'aurais pas été en tête de l'épreuve, peut-être que je me serais alimenté différemment, tu vois ce que je veux dire?
Oui,
Mais là,
bien
j'étais
sûr.
en tête de l'épreuve et je me revois sur la Race Cross Italie où je double le concurrent donc, qui était devant moi. Je prends la tête de l'épreuve et là, j'appelle ma voiture d'assistance et je me revois lui dire, bon, les gars, maintenant là, on déconne pas. Au niveau d'alimentation, fais pas d'erreur. Mais c'était trop tard. À ce moment-là, c'était déjà trop tard parce que j'avais déjà les premiers symptômes. Et je le sais, tu le ressens quand il y a un truc qui est déréglé dans ton corps. Donc,
Je
je
l'ai
pense
vécu.
que c'était le peur de l'endormissement. Donc, je veux dire, bah, je prends un peu plus de sucre pour pas dormir. Enfin, je suis tombé dans ces pièges-là. Voilà, je suis tombé dans ces pièges-là.
Et c'était aussi le fait d'être. Tu étais encore nouveau en fait sur ces disciplines-là, donc tu n'avais pas
Complètement,
forcément
complètement.
60 000 courses derrière toi pour servir de référence.
Ouais, et puis quand tu prends conseil, parce que j'avais pris conseil auprès de beaucoup, beaucoup de cyclistes ultra-distance, tous te disent, bah, tu sais, l'alimentation, c'est très personnel. Et ils ont raison. Ils ont raison. Tu peux pas partager. Tu peux expliquer, toi, ce que tu faisais, mais c'est pas parce que ça te convient à toi que ça va convenir à la personne à qui tu le partages. Il faut vraiment tester, il faut vraiment tester plein, plein de choses. Est-ce que c'est le sucré qui te convient? Est-ce que c'est le salé qui te convient? Faut vraiment tester, trouver sa bonne formule. C'est
Oui,
très
puis
personnel.
ça dépend aussi. Ouais,
Exactement.
tu peux passer d'un modèle vers l'autre, mais par exemple, tu as des gens qui vont avoir une certaine approche de l'alimentation alors à l'entraînement, et le jour de la course, ils vont faire un truc véritablement nouveau, et le corps dit non, en fait. Il dit juste non parce que.
Exactement.
Enfin, la course finalement n'est pas si différente que ça que de l'entraînement, si ce n'est qu'elle est plus longue, plus dure, enfin voilà. Mais elle peut rester un peu dans les paramètres de l'entraînement et pourtant le protocole alimentaire qui est suivi n'est pas du tout le même. Donc,
Exactement, tout à fait.
tu as fait cette transition et effectivement, je pense qu'elle surprendra personne que si tout d'un coup tu commences à cuisiner beaucoup plus, travailler moins avec des aliments, on va dire industriels, parce que ou en tout cas multi-transformés. C'est évident que en termes de santé, tu vas te sentir mieux. Ça, c'est sans surprise. Et donc, tu retournes avec cette nouvelle approche en 2015 et tu signes donc un record français de la distance en. Alors, tu me dis, c'est bon, j'ai 11 jours et 2 heures, c'est ça?
11 jours, c'est ça, j'aurais 12 heures.
Donc, plus de 400 km par jour, ce qui est très honnête.
400, 400, 440, ouais.
Ouais.
440 en moyenne, ouais.
Tu arrives avec cette nouvelle expérience alimentaire. Donc, à ce stade-là, donc on est sur une alimentation végétarienne. Tu as choisi le vegan plus tard. Mais donc, tu as déjà quand même vachement changé ça. Est-ce que tu y retournes avec cette approche d'alimentation millimétrée?
Ah, bien sûr,
Ouais.
complètement.
Ok.
Complètement. Ah ouais, complètement. Quand on est parti, les 3 premiers jours étaient calibrés.
D'accord.
Les 3 premiers jours étaient calibrés et après on s'est dit, ben, on verra en fonction de comment l'organisme réagit parce que moi, j'avais jamais fait des courses aussi longues. Donc, je ne savais pas au bout de 3 jours si mon foie, mes intestins, mon organisme allaient supporter ce type d'alimentation qui était à ce moment-là basé sur 70% d'alimentation liquide. Donc, parce que dans la discipline, dans le long, pour mettre au repos ton corps, bah, le liquide, si tu veux être performant, t'as pas 36 solutions. Il faut passer sur de l'alimentation liquide qui t'apporte en dégorgée des protéines suffisantes. Donc, et à ce moment-là, en 2015, j'étais encore bien, bien loin de ma démarche au niveau de l'alimentation que j'ai pu avoir par la suite. Hein. C'était le tout début, là, vraiment le tout début.
Ouais, encore le
Là,
début
on était
d'expérience.
2015, on était dans, bon, j'ai commencé à découvrir certaines choses qui me vont bien et j'en étais là. Après, les choses se sont vraiment, vraiment accélérées et avec le recul, il y a même des choses que j'aurais fait complètement différemment encore.
Ouais. Alors, justement, ça, c'est ma curiosité d'amateur d'ultra. J'avais voulu, à une époque, j'avais essayé l'idée de millimétrer un petit peu mon alimentation et j'ai fini par jeter tout ça à la poubelle. Parce que ça marchait pas pour moi. Hein. Et donc, j'ai une approche un peu différente, mais qui reste quand même assez structurée. Je mets une petite alarme sur ma montre. Toutes les 30 minutes, ça bip. Et le bip veut juste dire réfléchis à si tu as faim ou si tu as soif. Et ensuite, à
Ouais,
partir de
c'est.
là, je décide si oui ou non.
Ouais, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a une différence dans ma pratique d'ultra-distance en cyclisme, c'est que tu peux la pratiquer avec assistance ou sans assistance.
Oui, puis
Et
t'as
le
quelqu'un à
mode
portée de main, ouais.
d'alimentation est total. Voilà, le mode d'alimentation est totalement différent entre les deux. C'est comme dans certains trails, notamment aux États-Unis, où je sais que tu peux avoir des paceurs, c'est-à-dire des gens, si j'ai bien compris, qui t'accompagnent sur des parties du parcours et sur la fin, et qui là peuvent
Exactement.
t'aider, t'apporter de l'hydratation. Moi, cette année, j'ai basculé sur des épreuves, ce qu'on appelle bikepacking, c'est-à-dire sans assistance. Je suis arrivé sur la première épreuve que j'ai faite en mars, là, cette année, il y a 2 mois, mi-mars, avec mes idées de cycliste ultra-distance avec assistance, et je me suis planté complètement. Je me suis planté complètement parce que je pensais que je pouvais amener avec moi. Je m'étais dit, bon, l'alimentation, bah, il n'y a pas mon assistance qui est là pour me la donner. Donc, je vais en emmener le maximum avec moi. Et en fait, c'était une énorme erreur parce que j'ai surchargé mon vélo énormément. Et donc, bah, tu sollicites tes muscles différemment, tes tendons différemment. Et au bout de 600 bornes, bah, j'avais le genou en feu. Donc, je pense que quand tu es, c'est peut-être pareil en ultra, mais quand tu es en cyclisme ultra distance sans assistance, il faut accepter de faire des efforts. En perte calorique quelque part. C'est-à-dire où t'auras pas tes 400 calories par heure. Voilà, tu les auras pas. Donc, il faut que ton corps, il faut que tu l'entraînes à ça, à faire des efforts alors qu'il n'a pas toutes tes calories nécessaires. On n'est pas en hypo, mais on est, parce que tu roules pas aussi vite, mais on n'en est pas loin. Et ça, il faut habituer ton corps à l'accepter et à le comprendre.
Ouais, à pas avoir de glycogène à disposition d'ailleurs, c'est ça en gros.
Exactement, exactement.
Alors je me posais une question là-dessus, qui était justement, qui je pense est peut-être du coup plus propre au cyclisme qu'à la course à pied. Lorsque tu es sur des efforts très longs comme ça, on dit souvent que sur un effort de course à pied, si tu devais faire, je sais pas, on va dire que tu fais 200 km route, hein, ce qui est quand même assez conséquent pour de la course à pied, mais nettement moins pour le cyclisme. Si tu dois faire donc l'équivalent, on va dire que tu te prévois une petite journée, quoi, tu vois, pour faire tes 200 bornes, peu importe le rythme auquel tu vas, bah là, tu vas être majoritairement en aérobie, d'accord, sur ce genre
Ouais,
d'épreuve, sur ces épreuves
ouais.
très longues. Tu vas être même d'ailleurs, il est très peu probable, hors dénivelé, que tu rentres jamais en anaérobie. Donc l'anaérobie, là où tu
Ouais.
vas brûler beaucoup plus de glucose que le mode d'aérobie où tu as tendance à brûler plutôt des
Bien
graisses.
sûr.
Donc quand tu es en cyclisme ultra distance, donc imaginons un Race Across America ou à travers l'Europe, à travers la France, enfin, toutes ces grosses, grosses distances,
Ouais.
et de manière compétitive, hein, pas de manière amateur. C'est-à-dire que là,
Bien
je parle
sûr,
de quelqu'un
bien
qui va
sûr.
chercher le podium. Tu vas pas non plus être en aérobie, tu vas être quand même un petit peu en anaérobie. Non?
Très peu, très peu,
Ouais.
très peu, parce que tu vas t'être préparé et tu vas t'être imposé des charges d'entraînement l'année précédente pour justement augmenter tes niveaux. C'est-à-dire que si ton niveau, je sais pas, on peut parler en cardio ou en watts, nous en vélo maintenant on part en watts
Oui, c'est vrai.
développés, si ton seuil était ta FTP, elle était à 220 watts, eh ben, tu vas travailler toute une année. Alors, la FTP en vélo, quand je dis 220 watts, c'est-à-dire que c'est la puissance que tu peux développer sans créer de déchets dans tes muscles. Voilà.
D'accord.
Donc, ta zone de seuil. Si tu es en dessous, ben, tu peux pédaler des heures et des heures sans que tes muscles créent d'acide lactique. Si tu passes au-dessus, ben, tu crées de l'acide. Et là, ben, plus le temps va passer, plus tes muscles vont durcir et ça va être très compliqué d'avancer à la même vitesse. Donc le but, c'est de travailler justement et de t'imposer des charges d'entraînement qui augmentent ce niveau-là de manière considérable. Et plus tu vas l'amener haut, ce niveau de FTP, et ben plus tu pourras rouler vite tout en étant en aérobie, voilà, sans monter dans les tours. En ultra-distance en vélo, tu peux rouler très vite tout en restant bas dans tes seuils, mais ça, c'est une grosse année d'entraînement pour ça.
Ouais, donc du coup, ce que tu vas, enfin, donc même donc, pour quelqu'un comme toi qui va aller justement chercher un podium sur une épreuve de cette taille-là, donc tu vas quand même malgré tout rester majoritairement, j'imagine que sauf les grosses montées, les trucs comme
Oui,
ça, mais tu vas rester majoritairement du coup en aérobie, donc en train
c'est ça.
de brûler majoritairement des graisses et finalement assez peu en anaérobie. Et du coup,
Complètement.
ton alimentation, j'imagine qu'elle correspond un petit peu à ça, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des gros apports glucidiques pendant ces efforts-là.
Non, exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup même.
Vas-y, vas-y.
Moi, je vais beaucoup même sur l'alimentation lipidique. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire des bonnes graisses, hein, parce que ça s'assimile tout de suite par le corps. Hein. Donc, c'est ton carburant. Hein.
Et donc, enfin, ça ressemble à quoi, je sais pas, l'alimentation que tu peux emmener avec toi, parce que j'imagine que tu pars pas avec ta bouteille d'huile d'olive à la place du bidon non plus.
Non, mais ça peut être du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, très clairement. Ouais. C'est pour nous bikepackers, c'est parfait pour nous, ça. C'est parfait.
C'est des choses que j'ai déjà utilisées aussi.
Ah, c'est très, très bon.
Et donc, du coup, quand tu as un petit peu... tu as fait ta course à travers les États-Unis, tu as mis ton record. Donc, c'est le début de ta découverte alimentaire. Hein, et c'est quelque chose, du coup, que tu as continué à travailler sur les années. Jusqu'à, donc, enfin, dans ce processus-là, tu es allé faire, du coup, la traversée de France aussi.
Alors, la traversée de la France, je l'ai fait dans le cadre de ma préparation pour 2015.
D'accord. Ouais,
c'était quelques mois avant. Ouais, c'était okay, vraiment un cheminement pour m'amener au meilleur de ma forme, avec le plus d'expérience possible sur la région Cross America.
Alors, ça ressemble à quoi, la traversée de France?
Ah, ben, c'est un Dunkerque-Marseille.
D'accord.
Dunkerque-Marseille ou La Rochelle-Genève, par exemple.
Ok.
Voilà. Je ne sais pas à quel moment tu vas diffuser l'épisode, mais je peux en parler.
Ouais.
Avec tout ce qui s'est passé, donc, avec la période que l'on a traversée, moi, donc, je devais traverser l'Europe. Et avec un ami qui, lui, devait traverser l'Amérique, il était inscrit sur la Transamérica. Donc, ouais, on s'était entraîné tout l'hiver, durement, tous les deux de notre côté. Et puis, on s'est dit, bon, ben, on est un peu frustrés, hein, toutes les épreuves s'annulent une par une. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se faire plaisir cet été? Et donc, on devrait partir en fonction des décisions sanitaires qui vont être annoncées. En tout cas, on a prévu de partir, et après, on modifiera s'il y a lieu de le modifier, mi-juin, où on va faire quelque chose de très éco-responsable et très économe en même temps, puisqu'on va faire le Tour de France en autonomie complète, mais le Tour de France par les frontières et par le littoral.
Ah oui, d'accord.
C'est quand même un parcours qui fait 4800 km. Donc on est parti pour entre 15 et 18 jours et on part avec notre duvet, notre matelas et on va partir en bivouac s'il le faut, mais vraiment à l'aventure, sans contrainte horaire, pour aller aussi à la rencontre de la France, voilà, parce que ça va être magnifique, tout en s'alimentant si on peut directement chez le producteur, en tout cas ce qu'on va trouver sur notre route. Voilà.
Ouais, ah, c'est cool ça. Bah, d'ailleurs, pour répondre à ta question, ouais, la date prévue de sortie d'épisode, ça sera le 16 mai, donc vous ne serez pas encore parti. Et donc, ça sera l'occasion parfaite pour que tu me donnes. Ouais, voilà. Ça sera l'occasion parfaite en plus pour que tu me donnes les liens pour que les gens puissent suivre un peu l'aventure.
Ouais, complètement, puisque je vais t'équiper mon GPS. Donc, les gens pourront nous suivre en live. Et il y aura un site sur lequel il y aura le parcours. Donc, les gens pourront savoir quel parcours, quelle route on emprunte et où est-ce qu'on se situe. Donc, si les gens veulent venir rouler avec nous, alors, il y aura toujours les 10 mètres imposés ou pas. Mais en tout cas, si les gens veulent venir rouler avec nous et partager, ou même, pourquoi pas, les soirs, en fonction d'où on se situe, nous proposer un hébergement ou une petite assiette végane, pourquoi pas. grand plaisir.
Ah, c'est une belle aventure, ça, c'est cool. Tu vois, je m'étais posé la même question, c'est marrant que tu en parles. Je cherchais en fait un projet un peu fou, et puis parfois tu te laisses aller à des choses qui ne seraient pas forcément
exactement
faisables. Clairement, je pense que tu es le genre de personne qui va comprendre ce genre de propos. je m'étais posé la même question et j'étais même allé aller regarder combien de kilomètres et combien de temps ça prendrait pour le faire à pied. Bon, je me suis dit que c'était peut-être un peu beaucoup, mais qui sait, un jour peut-être.
Exactement. Il faut toujours avoir ça dans un coin de la tête. Puis après, les projets font leur chemin et ça permet des fois d'aboutir sur d'autres projets. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette démarche. Ouais.
Avis aux sponsors, pas français, du coup. Éviter de se fâcher avec les gens. Mais ouais, d'accord, c'est une belle aventure. Donc, du coup, tu avais déjà fait, je reviens juste sur la traversée de la France, donc tu avais fait ça en guise de prépa. Mais oui. Tu l'as refait depuis parce que tu as deux records dessus, non?
Non, je l'ai fait, j'ai le nord-sud, okay, et j'ai fait est-ouest.
D'accord, oui, d'accord, c'est pas la même.
Non, c'est pas la même, c'est dans les deux sens.
Ça marche. Et donc, après avoir eu cette aventure pour toi, donc, tu es devenu ultra cycliste, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus maintenant.
Ouais.
Tu t'es dit, bon, ok, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Donc, j'ai envie d'être dans ce domaine-là. et tu as accroché, tu as découvert ce truc, la Race Across America, tu as accroché, tu t'es dit, il nous faut la même chose ici.
Oui, c'est-à-dire quand je l'ai fait en 2013, et comme je t'ai expliqué juste au début de l'épisode, je me suis pris une grosse claque en me disant, waouh, c'est quand même dingue qu'ils nous, pays du Tour de France, on ne connaisse pas cette manière de faire du vélo, parce que je pense qu'il existe différentes manières de faire du vélo. Il n'y a pas que les courses les dimanches, il y a plein d'autres choses. Et je me suis dit, c'est ouf qu'on ne connaisse pas ça, quoi. Il faut absolument qu'on l'ait en France. Et je me souviens, j'étais sur un entraînement et j'ai eu le déclic pendant un entraînement, en fait. En plein entraînement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Il faut que j'importe le concept. Et puis, donc, j'ai déposé la marque en 2014. Et puis, bah, après, c'est des rencontres, des réflexions qui font que l'épreuve est sortie en 2018. Et là, on organise la troisième édition cette année en espérant qu'elle ait lieu. Le départ est donné le 15 août. Donc, pour le moment, on est bon, mais les choses peuvent évoluer. Et donc, bah, effectivement, j'ai importé le concept où j'ai mixé les deux. C'est-à-dire que tu peux faire ce type d'épreuve avec assistance ou sans assistance. D'accord. Donc, je laisse ouvert le parcours aux deux typologies d'ultra-cyclistes.
Ouais.
Et donc, bah, ça va. Et c'est pareil, j'ai fait un parcours qui fait 2600 km à travers la France et les routes légendaires des Alpes françaises. Mais aussi, j'ai fait des distances pour mettre le pied à l'étrier aux cyclistes qui voulaient stater en ultra-distance, puisqu'il y a une première distance qui fait 300 km.
Ouais.
Une seconde distance qui fait 500 km et une troisième distance qui fait 1100 km à la sortie des Alpes. D'accord. Donc, la Race Across France aujourd'hui, c'est quatre distances pour les personnes qui veulent se tester, pour les personnes qui veulent progresser et pour les personnes qui veulent vraiment se lancer sur la grande aventure des 2600 km.
Ouais.
Qui est un véritable parcours touristique en France, puisque tu fais le Ventoux, tu fais l'Alpe d'Huez, le Galibier, le Lautaret, le Cormet de Roseland, la Colombière. Tu longes les châteaux de la Loire à Chambord. Tu passes devant le château de Chambord. Ensuite, tu vas chercher les plages de Utah Beach, puis le pont de Normandie. Enfin, voilà, c'est un véritable parcours touristique également.
Ouais, donc t'as vraiment voulu mettre un petit peu ta passion sur ton épreuve.
Exactement, exactement.
Et donc... J'ai envie qu'on revienne sur ton alimentation, mais j'ai une question assez importante que je veux pas oublier de te poser. C'est enfin importante pour moi. Quand je regarde le cyclisme, en tout cas le cyclisme traditionnel, d'accord. Donc on va parler Tour de France et autres. Je vois un sport d'équipe, d'accord. Qui est enfin les gens évoluent en équipe. Les cyclistes se disent c'est un sport d'équipe. Ils s'entraînent en équipe, concourent en équipe. Et à la fin de la course, il y a un mec sur le podium. Et ça c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Toi, tu es sur une discipline où tu potentiellement peux t'entraîner en équipe, mais par contre, tu es seul compétiteur. C'est-à-dire que tu n'es pas dans cette situation où tu te lances sur une épreuve, en dehors des binômes, hein, bien sûr, mais tu te lances avec une dizaine de personnes pour finalement dire que c'est que toi qui remportes la chandelle, l'épreuve. Toi, tu es plutôt sur ce truc du cycliste du coup, qui pédale seul, qui fait son aventure seul, mais tu considères, si j'ai bien compris, que ce n'est pas pour autant un sport solitaire.
Ah, bien sûr, loin de là. Loin de là, effectivement, en ultra, tu es tout seul sur ton vélo, mais il y a plein de gens autour qui t'ont permis d'être là où tu es, que ce soit ta famille, tes partenaires d'entraînement, tes sponsors. Voilà. Et si tu performes, ben, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui t'ont permis d'être performant. Donc, ça peut être des magasins de vélo qui t'ont conseillé sur les meilleurs accessoires à avoir pour être performant. Ça peut être sur quelqu'un qui t'a conseillé sur le meilleur type d'alimentation à avoir. Ça peut être quelqu'un qui t'a conseillé sur la meilleure map, la meilleure trace à avoir pour justement trouver les meilleurs spots où t'alimenter, les meilleurs endroits où dormir, tout en étant rapide. Donc, il y a toute une stratégie. C'est-à-dire que beaucoup pensent, les cyclistes ultra-distance, que ce sont des fous du vélo. C'est-à-dire qu'ils font de la longue distance et la première réaction qu'ont les gens, c'est de dire « Oh là là, mais t'es complètement malade ». Eh bien, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand tu fais du cyclisme ultra-distance, tout est préparé. Enfin, un maximum en tout cas. Tout ce que tu peux contrôler est travaillé, optimisé, détaillé. Le parcours est détaillé. Tout ce que tu as sur ton vélo a été mûrement réfléchi. Tu sais précisément pourquoi le câble il passe là, pourquoi tu as pris tel diamètre de pneu, pourquoi tu as pris telle largeur de roue, pourquoi tu prends tel éclairage, pourquoi tu prends tel vêtement, pourquoi tu prends telle sacoche et qu'est-ce que tu mets dans ta sacoche et dans quel ordre tu vas le mettre dans ta sacoche. Enfin, tout est détaillé. Tout est détaillé. Donc certes, il n'y a qu'une personne sur le vélo, mais très clairement, la performance ne peut pas être possible seule. Ça, c'est comme dans la vie, quand tu veux réussir quoi que ce soit. La personne qui pense aujourd'hui qu'à elle seule, elle peut réussir, que ce soit sportivement ou professionnellement, ben je suis désolé de lui dire mais qu'elle se plante mais royalement. Quoi. On ne peut pas réussir seul, quel que soit le domaine. Et le cyclisme ultra-distance n'échappe pas à ça.
Oui, finalement, la différence, c'est que tu n'auras pas de... Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, je connais qu'en anglais, mais il n'y a pas de notion de drafting. Quoi. Donc, parce que potentiellement, les épreuves sont tellement longues que peut-être que tu as quelqu'un à côté de toi derrière lequel tu peux te mettre pour prendre un petit coup d'air, pour avoir moins de résistance à l'air de temps en temps, mais j'imagine que ça ne doit pas être pendant toutes les épreuves non plus.
Pas, ouais. Ouais. Non, même si certaines épreuves sont autorisées au drafting, sur des épreuves qui font 2000, 4000 ou 5000 bornes, tu ne peux pas... Et à un moment donné, le rythme n'est pas le même pour chaque personne. Donc, c'est pas possible. Tu te retrouves forcément à un moment donné tout seul.
Ouais. Ok, bah, tu vois, ça, c'est. Et du coup, moi, ça me parle plus en tant que. Bah, puisqu'on n'a pas ces notions d'équipe, d'équipe que tu as dans le cyclisme conventionnel, dans la course à pied, tu vois, le fait d'avoir un effort très individuel, même si, bien sûr, bah, tu as toujours été entouré, c'est partenaire d'entraînement, enfin, c'est beaucoup plus en phase avec ce que je connais, en tout cas. Je voulais qu'on revienne donc un petit peu sur ton alimentation, parce que c'est quelque chose que tu as décidé de changer dans ta pratique sportive, mais tes décisions alimentaires, c'est pas que quand tu fais des compétitions, parce que c'est pas juste ton plan de course que tu as changé, tu as vraiment décidé de changer radicalement ton alimentation pour ta vie. Ouais. Et je voulais savoir comment ça s'était intégré, par exemple, dans la vie de tes proches, dans ton quotidien. Enfin, est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu du rejet, de la résistance, est-ce qu'on a essayé de te convaincre de faire autre chose, enfin, comment ça s'est passé?
Non, alors au niveau de ma compagne, elle est aussi très proche de ça, hein, puisqu'on avait pris tous les deux, en fait, on s'est documenté tous les deux au moment de 2015. Sur l'alimentation, on a pas mal lu de livres et on a pris conscience tous les deux en même temps de l'importance de bien manger, en fait. Donc là-dessus, au niveau de la famille proche, il n'y a aucun souci, c'est un vrai accompagnement, il y a un vrai plaisir de cuisiner, de manger des bonnes choses. Mmh. Après, il y a pu avoir, pas un rejet, mais des interrogations de la part des autres membres de la famille. De pas comprendre, de pas comment je pas de viande, de D'accord. pas comprendre comment je pas de ne pas comprendre qu'on se nourrisse que de légumes quelquefois. Enfin, c'était une interrogation quelquefois même un peu malveillante, presque un peu pas moqueur, mais on sentait. Enfin, de toute façon, il y a encore quelques jours sur les réseaux sociaux, j'expliquais. Où j'avais dans mes signatures de mail, je crois, ou une signature que j'ai faite, comme quoi j'étais végane, il y a une personne qui a rebondi en disant « Mais végane, quelle est l'utilité de dire que tu l'es, en fait ?» On sent que quelquefois, il y a encore certaines personnes qui ont une certaine agressivité vis-à-vis de ça. Je ne dis pas « C'est ce qu'il faut être ». Tu vois la différence ? Moi, je dis que je le suis parce que j'ai envie de le communiquer et parce que j'ai vu les bienfaits que ça avait sur mon corps. Mais par contre, à aucun moment, je dis « c'est ce qu'il faut faire ». Pas du tout. Ouais. C'est pas du tout dans ma mentalité, de ma manière de faire. Je dis que je le suis parce que ça peut intéresser d'autres sportifs de me poser des questions et de comprendre ce que ça m'avait apporté, ce que j'avais changé au quotidien. Donc, je suis plutôt, de manière générale, quelqu'un qui est communicant. Mais par contre, je ne suis pas du tout donneur de leçons. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut.
Je confirme parce qu'on en a parlé avant l'enregistrement et je t'ai dit que c'est quelque chose que j'avais essayé et qui n'avait pas fonctionné pour moi. À aucun moment est-ce que tu as essayé de me convaincre du contraire.
Moi je suis bien en étant comme ça, je suis bien dans ma tête et bien dans mon corps. Mais chacun, c'est comme pour le sucré ou le salé dont on parlait tout à l'heure, c'est très personnel. Voilà.
Tu dois avoir quand même, j'imagine, des gens qui s'intéressent du coup à ce que tu as fait. Et c'est normal, enfin, quelque part, de. Je ne sais pas s'il faut, il faut forcément se balader avec un drapeau en disant je mange ceci, je mange cela, mais par contre, lorsque on a une certaine visibilité publique et que du coup, bah, des gens vont s'intéresser potentiellement à ce qu'on fait, on peut dire bah, voilà, moi j'ai cette expérience-là, ça, ça a marché pour moi, enfin ça, c'est cohérent.
Exactement.
Après, oui, c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu surpris, par exemple, de voir. Alors, je reste sur l'exemple du véganisme, mais je l'ai déjà vu pour d'autres trucs, hein, donc c'est. C'est interchangeable pour le coup, mais des gens qui vont mettre en avant leur véganisme, par exemple, sur leur t-shirt de course. Tu vois, je suis pas, bah, ok, d'accord. Enfin, si c'est une croyance que tu as envie de mettre en avant, pourquoi pas. Mais ça, parfois, je me demande si c'est pas un peu moralisateur pour les, vis-à-vis des autres. Genre, tu devrais faire comme moi. Enfin, j'en ai jamais parlé avec quelqu'un qui faisait ça. Hein.
J'en suis pas là, sachant que quand j'ai basculé dans le véganisme, j'avais communiqué, j'avais tout de suite expliqué que pour moi, je n'étais pas un ayatollah du véganisme non plus. C'est-à-dire que je m'alimentais de manière végane, mais je n'avais pas changé mon mode de vie non plus. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas du jour au lendemain décidé de m'habiller végane. Voilà, non, c'est un mode de vie. C'est une démarche aussi personnelle. Et pour le moment, j'ai basculé dans mon alimentation. Mais après, il y a aussi une démarche très écologique, hein, dans le fait de passer, en tout cas pour moi, une démarche très écolo de basculer sur le végane. C'est une prise de conscience générale. Moi, je me déplace plus qu'uniquement en vélo dans Paris. Je ne prends plus les transports en commun. Je ne prends pas ma voiture, si ce n'est pour quand on va en famille avec les enfants. Voilà. C'est vraiment un tout. Je reviens sur le fait que je ne dis pas absolument à tout le monde c'est ce qu'il faut faire. C'est juste que moi, je me retrouve dans ça à cet instant précis. Voilà.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que je voulais que tu viennes en parler un peu sur l'émission, parce que les donneurs de leçons, je trouve que ça apporte pas grand-chose, mais les gens qui veulent partager une expérience, ça c'est super intéressant.
Voilà, moi je suis vraiment dans le partage, exactement.
Et donc du coup, cette idée de... Voilà, j'étais curieux de savoir, par exemple, donc, tes enfants, c'est quelque... enfin, est-ce qu'ils te suivent dans l'année? Ils ont quel âge d'ailleurs?
Alors ils sont petits, non, là-dessus, ils ont 5 et 4 ans, donc non, je les alimente... un petit peu différemment de moi pour leur apporter les apports dont ils ont besoin à leur âge. Quoi.
Ouais.
Voilà. Mais ils mangent sainement, c'est évident. Quand tu as les parents qui font attention à ce qu'ils mangent, forcément les enfants, voilà, ils ne mangent pas des burgers dans les grandes enseignes tous les week-ends, hein, c'est évident.
Ouais. Bah, on a eu sur le podcast donc quelqu'un qui est plutôt adepte d'ultra-distance aussi, d'ailleurs, en vélo aussi, comme toi. Et qui du coup fait ça avec une approche cétogène, donc du coup, non végane, hein, il a une alimentation variée, mixte quoi, voilà. Mais lui, l'approche très céto, c'est intéressant de voir que dans une, enfin, et ça, c'est, je pense que c'est un très bon exemple de l'individualisation, c'est-à-dire que après vous faites peut-être pas la même chose, mais l'idée c'est que tu as deux personnes qui vont pratiquer un même sport sur un format ultra et qui vont quasiment être, enfin, qui vont avoir deux approches très différentes d'alimentation, et pourtant, ça marche pour les deux, tu vois. Enfin...
Exactement. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est très personnel. Très, très personnel.
Et quand les gens découvrent que tu as ce genre, une pratique particulière d'alimentation qui n'est pas la leur, c'est surtout ça qui est important, je pense, c'est-à-dire ce qui n'est pas la leur, est-ce que tu as est-ce qu'on vient régulièrement te dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça?
Non, on s'interroge en disant, ah, t'es sûr que quand même, c'est bon, voilà. C'est plus de l'interrogation.
D'accord.
C'est plus de l'interrogation. Mais on n'est jamais venu me dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Ou, non, c'est plus de l'interrogation. Est-ce que t'es sûr? Voilà. Auquel cas, j'ai tout de suite les arguments pour expliquer, parce que je me suis renseigné, je fais pas ça, je fais pas ça par hasard, quoi.
Ouais.
Donc, les gens comprennent que que c'est logique. Enfin, c'est logique, c'est que je sais ce que je fais, quoi.
Oui, que c'est... Oui, t'as basé ta décision sur les informations que t'avais, que t'avais recherché.
Exactement.
Un peu ça, ouais, d'accord.
Exactement.
Donc là, tu nous avais décrit un petit peu tout à l'heure, par exemple, une alimentation type sur une journée type. Lorsque tu évolues en course, prenons peut-être un exemple concret, parce que j'imagine que ça va changer un peu selon les épreuves, mais je réfléchis par exemple au bikepacking, d'accord. Donc là, tu parlais des aventures de bikepacking, où tu dois tout transporter, donc j'imagine que tu ne peux pas exactement te balader avec ta petite botte de shoekale, qui dépasse de ton panier. Mais comment est-ce que tu fais du coup pour rester en phase? Parce que du coup, tu vas pas être sur un truc ultra sucré, j'imagine,
non,
vu que c'est de l'ultra distance.
Là, tu fais vraiment avec ce que tu trouves au bord du chemin, ouais. et c'est là que l'importance de connaître précisément les aliments est importante. C'est-à-dire que si tu ne sais pas ce l'apport de chaque aliment, bah, en fait, tu vas pas savoir quoi prendre et tu vas aller au plus facile. Alors que si tu sais précisément qu'est-ce que t'apporte chaque aliment, et bien en fonction de ce que tu as sous les yeux, tu peux te permettre de composer. Voilà. Et si tu n'as pas ton petit chou calé et que tu n'as qu'une betterave, bah, tu sais que la betterave, c'est pas mal non plus, quoi. Tu vois, donc bah, tu as ton couteau de campeur, t'épluches ta betterave, tu la manges, plutôt que d'aller prendre, je sais pas, une barre de céréales parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que le défi qu'on va faire fin juin va aussi être très intéressant pour moi. C'est de voir vraiment jusqu'où je peux pousser la démarche sur du cyclisme longue distance en totale autonomie. Ça va être un vrai test en grandeur nature.
D'accord. Et quand on est sur ce genre d'épreuve, du coup, est-ce que tu as quand même besoin, si tu devais décrire un petit peu tes besoins nutritionnels, donc c'est beaucoup tourné vers les lipides, si j'ai bien compris, du coup, sur un gros effort comme ça.
Oh bah je vais me rabattre sur les lipides parce que de toute façon, féculents, ça va être assez compliqué. Ça va être surtout en fonction de ce qu'on va trouver, protéines et lipides, très clairement.
Et ta principale source de lipides à ce moment-là, c'est quoi en général?
Bah j'aimerais, tu peux trouver quand même très facilement des amandes, de la pistache, ce genre de choses. Donc,
Plutôt les noix donc.
lipidique et protéiné également. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis après, tu peux trouver un peu de féculent dans certains pains que tu peux trouver dans des boulangeries parce que la principale source d'alimentation d'un bikepacker, ce sont les boulangeries,
D'accord.
principalement ou les petites et moyennes surfaces. Donc, très clairement, moi, je vais quand même beaucoup me tourner vers les légumes, pour compenser tout ça.
L'idée de partir avec des purées de pois chiches faites maison, ce serait pas une option, ça?
Ah ouais, non, ça peut être une option, mais ça va être que sur les 24 ou 36 premières heures. Et encore, ça va prendre de la place. Sachant que dans le bikepacking, il faut que tu réfléchisses énormément à la place. Enfin, tu peux pas. Tu pars pas avec une remorque, en fait. Donc, il y a aussi cette contrainte de place et l'acceptation, à un moment donné, de dire, bon, bah voilà, j'ai pas l'alimentation parfaite. J'ai pas mon smoothie le matin, j'ai pas mes choux calés, j'ai pas mes pois chiches en purée. Bah, je fais avec ce que j'ai et j'accepte quelquefois éventuellement bah, de ne pas m'alimenter comme je le fais normalement parce que j'ai pas le choix et tu as quand même ce besoin de calories. Donc tu fais au mieux avec ce que tu as. Et ça,
Ouais,
en
c'est
bikepacking, bah, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu.
Ouais, t'as la notion un peu débrouille qui devient assez
Bien
importante,
sûr,
quoi.
l'année prochaine, donc j'ai décalé la TCR de cette année à l'année prochaine. Voilà, quand je vais me retrouver au fin fond du Monténégro, de la Croatie ou de la Bulgarie et la Roumanie, bah, je ne vais pas rentrer dans un bar en disant je veux un smoothie à base de chou calé avec du gingembre et des tranches de mangue. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah, là, il faudra accepter de faire avec ce que tu as.
Ouais, c'est intéressant ça. Du coup, de devoir suivre un
Très
certain
intéressant.
protocole.
Non. Pas intéressant.
Si tu as un protocole alimentaire qui est le tien, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, que ce soit vegan, quelqu'un qui ferait de l'aceto ou je ne sais quoi, enfin, bref, ces choses un peu spécifiques, tu sais, où tu peux pas juste te satisfaire de tout. C'est vrai que le côté un peu débrouillard n'est pas forcément toujours facile. Mais c'est vrai qu'après, tu trouveras toujours, enfin, où que tu ailles, tu trouveras des légumes. Ça, en général, c'est bon.
Oui. Bien sûr, c'est pour ça qu'il est important de connaître les teneurs nutritives de chaque aliment. Donc il faut t'intéresser à ce que tu manges.
Et la notion de biodisponibilité aussi, parce que selon comment c'est
Tout à
préparé,
fait.
ça
Tout à
sera pas
fait.
forcément aussi disponible. Selon, je sais pas, un truc tout bête, je sais pas, on te donne une banane. On te donne une banane très mûre et une banane pas mûre du tout. Il y en a
Exactement.
une qui va être ultra glucidique. Parce que les fibres se seront cassées, donc libérant tous les sucres dedans, alors que la banane verte, elle est très fibreuse, et donc il y a beaucoup, beaucoup moins de sucre dedans. Selon ce que tu es en train de faire, l'une ou l'autre est plus pertinente, par exemple.
Exactement, tout à fait.
Ouais, donc tu deviens technicien alimentaire, en fait.
Bah, tu t'intéresses, c'est comme tout, hein. Si tu t'intéresses aux choses, forcément, bah, tu les vois de manière différente au fur et à mesure que tu les apprends, que tu apprends, hein.
C'est intéressant en tout cas comme démarche. Moi, j'aime bien regarder ce que les gens font différemment, d'autant, tu vois, surtout dans un sport que je connais pas, des pratiques alimentaires que je pratique pas, tu vois. Enfin, c'est bien de voir un peu ces différentes démarches. Et c'est vrai que les beurres de noix, c'est un truc qu'on t'en a parlé tout à l'heure et qu'on trouve un petit sachet. Ça, c'est un truc qui est vraiment pas très commun en France, et par contre, qui est ultra répandu en Amérique du Nord, Royaume-Uni. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais vu ça pour la première fois. Je sais qu'il n'y en a pas des tonnes en France. Et c'est sûr que se balader avec son pot de beurre d'amande de 500 grammes, c'est pas super pratique en vélo. Ouais, c'est des trucs aussi peut-être que tu dois aller chercher ailleurs, ou est-ce que tu trouves quand même ce que tu veux pour ce genre de pratique en France?
Maintenant, tu peux trouver, après on rentre pas dans la qualité non plus du produit, mais tu peux quand même trouver aujourd'hui beurre de cacahuète, beurre d'amande, surtout beurre de cacahuète maintenant. C'est quand même devenu un peu plus répandu que ça ne l'était il y a 2-3 ans en France. C'était très compliqué, ou alors il fallait aller en magasin spécialisé. Aujourd'hui, tu peux trouver beurre de cacahuète, beurre d'amande facilement. Et si tu as un pot avec toi en tant que bikepacker, franchement, tu passes une bonne journée. Quoi. Tu passes une bonne journée.
C'est quoi, tu l'attaches devant le guidon avec une cuillère plantée dedans?
Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça.
J'imagine bien la version, enfin, je sais pas pourquoi en tête, j'ai l'image, ce qui est pas du tout du backpacking, mais de quelqu'un sur des barres aéro avec le petit pot et la cuillère juste au niveau des mains, tu sais.
Voilà, et ben, c'est parfait.
C'est une idée pour toi, pour ton Tour de France, hein. C'est cadeau. Voilà. Écoute, merci d'avoir témoigné, c'est vraiment intéressant de croiser ces nouvelles ces nouveaux regards sur les choses. Est-ce que tu peux nous dire, du coup l'épisode sortira, tu auras déjà annoncé la course, et tu me donneras le lien pour se renseigner là-dessus, et donc les gens pourront jeter un coup d'œil.
Pour le moment, la meilleure source d'info, c'est ma page Facebook, très clairement. Okay, mais je t'enverrai les liens,
les différents liens où on peut te trouver, et je les rajouterai en description de l'émission. Et pour ceux que ça intéresse, il y a la Race Across France qui a lieu, donc tu disais le 15 août.
15 août, ouais. Départ le 14 et 15 août en fonction des catégories, de Mandelieu à Napoule. Et sur le site, c'est raceacrossfrance.cc, il y a toutes les informations.
Super, merci beaucoup Arnaud, et on te souhaite bon courage pour les deux aventures que sont la traversée, le Tour de France par les frontières et la course Race Across France.
Merci beaucoup, merci à toi.
Merci à toi. Vous voilà arrivé à la fin de l'épisode. Et si vous êtes là, c'est que ça a dû vous plaire. Donc je vous invite à nous le faire savoir avec un commentaire. Déjà parce que j'adore les lire, mais aussi parce que si vous avez des remarques et des invités à proposer, ça permet de faire avancer l'émission. Merci de votre écoute et à bientôt.